Bienvenue à vous qui nous retrouvez sur AWR, la Radio Mondiale Adventiste, pour votre nouveau programme de la Voix de l'Espérance en français qui vous est proposé et présenté par Oscar Miani. C'est donc parti pour les 30 prochaines minutes ensemble. Merci de votre fidélité à la Voix de l'Espérance. Vous êtes toujours plus nombreux à nous écouter sur les ondes, mais aussi par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative À propos, et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires Espérance, et là ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. La baisse de luminosité hivernale s'accompagne bien souvent d'une chute du moral, un coup de blues qui peut aller de la simple déprime à la dépression. Alors comment lutter ? De la fin octobre à la mi-avril, les jours gris peuvent mettre le moral en berne. Une déprime qui peut se manifester de différentes manières. Une perte de motivation, un manque d'énergie. Cette situation peut même aller jusqu'à la dépression associant les symptômes classiques comme une plus grande irritabilité et d'autres plus atypiques comme une fatigue très marquée, une hypersomnie, une boulimie, une appétence accrue pour les produits gras et sucrés et donc une prise de poids. La dépression saisonnière serait intimement liée à la baisse d'ensoleillement automnal et hivernal. Cette dernière provoquerait une baisse d'activité de la sérotonine qui contribue à la régulation de l'humeur. La sécrétion de la mélatonine s'en trouverait elle aussi affectée, provoquant des troubles du sommeil et de l'humeur. Par ailleurs, ces phénomènes sont facilités par nos modes de vie hivernaux. Nous avons en effet tendance à moins sortir, à voir moins de monde, à moins nous dépenser physiquement. Le manque de luminosité étant à l'origine de votre déprime, prenez l'air au maximum, aérez-vous et bien entendu la lumière artificielle de la maison ne compte pas. Même s'il fait froid, continuez à pratiquer une activité physique. Pour vous réconforter, ne vous jetez pas à corps perdu sur une alimentation trop grasse. Continuez à manger sainement et partagez de nombreux moments en famille ou entre amis. La phytothérapie peut aussi être d'une grande aide. L'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'intérêt du millepertuis dans la prise en charge de la dépression légère à modérée. Le safran, la rhodiole ou la passiflore peuvent aussi présenter des bienfaits. Et en cas de symptômes plus marqués, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin. Certaines approches peuvent vous aider à passer l'hiver sereinement. Selon les cas, des médicaments antidépresseurs, des séances de luminothérapie ou de psychothérapie pourront être envisagées.
Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
Bonjour à tous. L'heure du coucher peut jouer un rôle sur la santé cardiovasculaire. Aller au lit entre 22h et 23h serait associé à un risque plus faible de développer une maladie cardiaque, et ce, par rapport à ceux qui se couchent plus tôt ou plus tard. Pour la santé cardiovasculaire, le sommeil joue un rôle primordial. De nombreuses études ont déjà montré qu'une nuit trop courte ou trop longue augmente le risque de maladie cardiovasculaire. Des chercheurs grecs ont récemment révélé qu'en dessous de 6 heures de sommeil et au-dessus de 8 heures, le risque d'accident vasculaire cérébral est augmenté. Mais le nombre d'heures passées dans les bras de Morphée n'est pas le seul indicateur d'une bonne santé cardiaque. Le moment du coucher serait lui aussi important. Le corps possède une horloge interne de 24 heures appelée rythme circadien qui aide à réguler le fonctionnement physique et mental. Rappelle des chercheurs de l'université d'Exeter au Royaume-Uni. Un coucher tôt ou tardif pourrait être plus susceptible de perturber cette horloge biologique avec des conséquences néfastes pour la santé cardiovasculaire. Les scientifiques ont recruté 88 000 personnes âgées en moyenne de 61 ans entre 2006 et 2010. Les données sur l'endormissement et l'heure de réveil ont été régulièrement recueillies à l'aide d'un accéléromètre porté au poignet. Des évaluations, des styles de vie et des examens cardiovasculaires ont également été effectués. Résultat, par rapport à ceux qui s'endormaient entre 22h et 22h59, le risque de développer une maladie cardiovasculaire était augmenté de 25% pour un endormissement après minuit, 12% entre 23h à 23h59 et 24% avant 22h. Pour les auteurs, cela indique que le moment optimal pour s'endormir se situe à un moment précis du cycle de 24h du corps et que des écarts peuvent être préjudiciables. Le moment le plus risqué était après minuit, potentiellement parce que cela peut réduire la possibilité de voir la lumière du matin, ce qui réinitialise l'horloge biologique.
Vous aussi, votre santé vous intéresse ? Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement sur simple demande de votre part à france@awr.org.
Here is Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung.
Questa è la radio mondiale adventista.
La voce della speranza.
Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé 10 jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant 7 jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement? Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Juste avant, c'était Destination Santé que vous retrouverez sur cette même antenne dès vendredi prochain. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir depuis notre site internet awr.org ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 100-77-193, Damary-les-Lys, Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
À propos, pour éduquer moins bête.
À propos, savez-vous si le bricolage est créatif? Alors, si on part du postulat de base, selon lequel la créativité, c'est laisser libre cours à l'imagination et ne pas être dans la commande d'un résultat particulier, alors oui, le bricolage n'est pas à proprement parler une activité créative. Dit comme cela, ça peut être un peu dur à entendre. Mais en réalité, ce n'est pas tant le mouton en coton ou le collier de pâte qui pose problème. Une fois de plus, il s'agit de comprendre pourquoi cela est ainsi. Lorsque l'on présente à un enfant un produit à réaliser, on est tout simplement dans de la production de produits. Si en plus vous souhaitez que ce soit joli, selon vos critères, et que donc pour être content, vous vous permettez de repasser derrière pour bien terminer et pour reprendre, car non, définitivement les arbres ne sont pas bleus, alors oui, vous n'êtes pas dans l'activité artistique où l'expression de chacun a sa place et où les singularités sont reconnues. Et une fois de plus, l'on s'aperçoit que tout commence avec l'adulte. Que l'on soit parent ou enseignant, la question du pourquoi de telle activité se pose à nouveau et toujours. Est-ce pour faire quelque chose de joli? Mais alors, selon quels critères? Est-ce pour apprendre à utiliser une paire de ciseaux? À maîtriser certains gestes? Pourquoi pas? Cela aussi a toute sa place. Mais il ne s'agit alors pas d'une activité ayant vocation à développer la créativité, celle de l'enfant notamment. Voici les objectifs à avoir quand on souhaite proposer des activités visant à développer la créativité. Premier, qu'il puisse exprimer son propre langage créatif selon ce qui l'anime. Que ces activités l'aident à trouver un langage lui permettant d'extérioriser ses pensées, ses émotions, ses ressentis, etc. 3. Qu'elle stimule sa capacité à se concentrer et à travailler. Et enfin, qu'elle augmente sa capacité d'adaptation. Ce faisant, dans la joie et l'abandon à ce temps de créativité, l'enfant va s'épanouir et grandir en devenant quelqu'un de dynamique et ouvert, capable d'exprimer ce qu'il porte en lui. Il aura moins tendance à vouloir être un bon copiste qui clone formidablement bien ce qu'on lui a montré et demandé de reproduire. Alors vive la créativité!
C'était À propos, présenté par Anna Aurouz.
Is Adventist World Radio, the voice of hope.
Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de la Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
Cette nouvelle émission de notre série consacrée à la thématique de l'espérance au travers de la Bible. Et j'accueille notre intervenant habituel maintenant, Philippe Delez. Bonjour.
Bonjour Gaël.
Alors nous continuons à progresser dans le chapitre 12 du livre de l'Apocalypse à travers les prophéties qui nous sont données. Nous avions dans nos dernières émissions identifié le dragon, qui est le diable ou Satan, et que celui-ci est entré en guerre contre le Fils de Dieu, Michel, dans le ciel. Et ce dragon a donc été chassé du ciel sur la terre, et aujourd'hui encore, il revendique cette planète comme sa propriété. Alors, Philippe, pouvez-vous nous faire un bref résumé de la situation dans laquelle on se trouvait à la fin de notre précédente émission ?
Alors, si vous voulez bien, faisons un petit récapitulatif et avec un peu de logique. Pour ce faire, je vous invite à réécouter les versets 7 à 9 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse. Je vous le lis. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Tout d'abord, une guerre dans le ciel. Ça paraît tellement irréel. Les mots « guerre dans le ciel » résonnent comme un paradoxe suprême. C'est presque inimaginable pour nous qu'il puisse y avoir, entre les êtres parfaits du ciel, une lutte au paradis de Dieu.
Oui, effectivement, ça semble complètement surprenant. Mais de fait, nous pouvons être en droit de nous poser cette question. Quelle était la cause de cette guerre ?
Alors, oui, vous avez raison, cela est surprenant. Mais heureusement, la Bible nous donne les éléments de réponse. Je vous cite le chapitre 14 du livre d'Ésaïe, à partir du verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur... je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Le prophète Ésaïe, 800 ans avant l'Apocalypse de Jean, nous donne la raison pour laquelle Satan est exclu du ciel. Satan voulait s'élever au-dessus de Dieu. « J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu », nous dit la Bible. Jésus lui-même confirme cette chute. Nous trouvons un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, verset 18. Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Et puis pour les auditeurs qui désirent plus de renseignements, je les invite à réécouter les émissions 10 à 14 concernant le sujet du péché.
Sans vouloir me faire l'avocat du diable, Satan n'avait-il pas soulevé quelques questions qui pourraient paraître embarrassantes pour Dieu ?
Vous voudriez dire que Dieu serait injuste ou que tout ne serait pas clair ou net au sein de son gouvernement, que Dieu roulerait pour lui-même ?
Oui, oui, un peu ça.
Alors en fait, lorsque nous lisons entre les lignes du texte biblique, nous pouvons comprendre que c'est le genre de reproche que Lucifer a fait à Dieu, d'où cette rébellion. Mais cette rébellion que Lucifer a initiée dans le ciel n'a pas encore eu de réponse de la part de Dieu, mis à part le fait qu'ils étaient expulsés du ciel. Et les anges qui étaient restés fidèles à Dieu se posaient peut-être des questions, à savoir est-ce que Lucifer avait tort sur tout ? Un doute légitime traversait peut-être leur esprit. Est-ce que la réaction de Dieu était juste ? N'était-elle pas démesurée ? En fait, j'essaye de me mettre à la place de ces êtres et de raisonner. Et la situation n'est pas anodine. La Bible nous dit au verset 4 du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, ceci, je vous le lis. « Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Lucifer, le dragon par ses mensonges, a entraîné dans sa rébellion le tiers des anges du ciel avec lui sur la terre. Et puis, pour Dieu, il fallait séparer les anges déchus des anges fidèles, afin que ces derniers ne subissent plus l'influence des rebelles et celle de leur maître. Et je voudrais vous lire la suite du verset 10 qui confirme ce que nous disons. « Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Le salut est confirmé à la croix. De ce fait, l'accès au ciel est fermé à Satan et ses anges.
Mais il faudra bien que Dieu donne une réponse ou qu'il se justifie d'une certaine manière.
Bien sûr, Dieu est amour, nous dit la parole. Et cet amour est le créateur, il est le Dieu de la vie. Par contre, le péché est destructeur et conduit à la mort. Et Paul nous le rappelle dans son texte. Il dit « Le salaire du péché est la mort ». Donc la défense de Dieu se fera par l'amour. Et en Genèse, chapitre 3, verset 15, il en indique le plan à Adam et Ève lorsqu'il dit au serpent « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Le talon blessé représente la croix où Jésus a cloué le péché et par sa résurrection a ouvert une nouvelle voie vers l'éternité. Rappelez-vous ce problème du péché. L'apôtre Paul nous le décrit dans sa lettre aux Romains chapitre 5, verset 12. Je vous le cite. « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. » C'est par la croix que Dieu donne sa réponse. Écoutez ce que nous dit l'apôtre Jean dans son évangile au chapitre 12, à partir du verset 31. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. C'est par la croix qu'il a prouvé, pas seulement aux hommes, mais à tout l'univers qu'il est un Dieu d'amour et juste. Satan, lui, a prouvé sa cruauté et ses ambitions. De ce fait, les habitants du ciel ont eu une preuve irréfutable de la situation. Le vrai caractère de Lucifer, ses projets fallacieux sont dévoilés et tous ceux qui auraient pu avoir des doutes d'un Dieu injuste auront pu trancher définitivement car ils étaient confrontés à l'évidence.
Lorsque nous vous écoutons, nous avons l'impression de vivre un véritable film de science-fiction, comme s'il s'agissait de quelque chose d'irréel. Mais aujourd'hui, en ce qui concerne notre humanité, où en sommes-nous ?
Eh oui, je vous comprends Gaël. C'est ici qu'en fait, nous avons besoin de toute la foi que Dieu nous donne. Je vous invite à lire, si vous voulez bien, le verset 12 du chapitre 12 de l'Apocalypse. Satan est expulsé du ciel, et voici ce que nous dit la Bible. « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la croix, le véritable caractère de Satan a été révélé. Et à la croix, le ciel lui a été fermé. La vérité a été établie et le ciel se réjouit. Satan est cantonné à la terre, d'où ce malheur pour les habitants, c'est-à-dire pour chaque être humain. Alors Gaël, pour répondre à votre question, la croix est le trait d'union entre le visible et l'invisible. Et en ce qui concerne notre situation, regardez dans quel monde nous vivons. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous vivons réellement dans le monde du diable.
Effectivement, il y a une différence entre le monde que Dieu avait créé et celui que nous avons aujourd'hui. Et de la même manière, on peut dire qu'il y a une différence de caractère évidente entre Dieu et Satan.
Effectivement. Et ce livre de l'Apocalypse aux révélations de Jésus sera aussi le dévoilement de tous les caractères, de tous nos caractères. Satan sera démasqué aussi aux yeux de l'humanité entière et chacun se verra tel qu'il est en réalité. Écoutez ce que dit Jésus dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, verset 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. » Et puis l'apôtre Paul nous annonce aussi ce dévoilement. Dans son livre aux Romains, chapitre 2, verset 16, voilà ce qu'il dit. « C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. »
Si je comprends bien tout ce que vous nous dites, Dieu utilisera comme seul et unique moyen de défense ou de réponse son amour.
Écoutez, au mont Sinaï, après avoir donné sa loi à Moïse, rappelez-vous ce que Dieu lui a répondu. Je vous lis le livre de l'Exode, chapitre 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. » Et puis dans le livre aux Hébreux, au chapitre 13, verset 8, il est dit, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Alors, si Dieu est amour au Sinaï, il est amour éternellement. Écoutez ce que nous dit l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, dans sa première lettre, chapitre 4, verset 15. « Celui qui confessera que Jésus-Christ est le Fils de Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » En fait, par amour et par respect pour ses créatures, et Satan en fait partie, Dieu laissera se dévoiler complètement nos caractères. Confrontés à la loi de Dieu, ce sera nos actions qui, une fois au grand jour, nous accuseront. Il n'y a que l'amour qui donne la vie. Le péché, lui, sème la désolation et la mort. En fait, Dieu est amour. Il ne peut pas faire autrement. C'est même plus fort que lui. C'est sa nature.
Oui, il y a une nature qui nous dépasse complètement. Eh bien, merci Philippe. Je vous propose que nous puissions poursuivre ce cheminement dans le livre de l'Apocalypse avec tous ces symboles lors d'une prochaine émission.
Avec plaisir, Gaël.
Eh bien, merci Philippe. À très bientôt.
Merci Gaël. Bientôt. Au revoir.
Connais-tu l'IEBC ?
Non, c'est quoi ?
C'est l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tout.
En effet, étudier la Bible, c'est vraiment fun. J'ai découvert ces cours gratuits destinés à tous et c'est très intéressant.
Moi, j'ai suivi le cours Au nom de l'amour. Il me tarde de découvrir les autres cours gratuits sur la Bible sur www.iebc.org.
Notre émission est maintenant terminée. C'était La Voix de l'Espérance sur la Radio Mondiale Adventiste. Je vous donne rendez-vous dès demain à 4h30 sur les 6155 kHz, bande des 49 mètres, à 8h sur les 15145 kHz, bande des 19 mètres, et à 20h sur les 9780 kHz, bande des 31 mètres. Je vous souhaite une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. À demain.